Ouais, moi je fais.
Tu me tires.
T'es-tu prêt, Pat?
Yes, tu me tires off space.
Alright. Ouais, mais avant ça, je vais juste donner un briefing en français, vu que j'en donne pas souvent en français. On n'en donne pas souvent en français. Ok. Mais je vais comme aborder deux aspects de ce qui est en train de se passer, mais au niveau international, ou qui ont des ramifications internationales, des conséquences internationales, mais le plus important, ben, Larouche l'a réitéré encore dans une discussion avec les membres aux États-Unis hier, c'est de comprendre comment il y a eu un changement dans tout le système financier international. Il y a un changement au niveau du mois d'octobre où on est entré dans une phase de faillite des États, ou en anglais les sovereign default. Puis il y a eu des bonnes choses aussi qui ont été faites, mais on est dans une phase où le système financier, et si on regarde le triple cours, c'est maintenant les États qui ont décidé, il y a déjà un an, deux ans, de renflouer le système financier, le système bancaire, qui maintenant sont en position de faire faillite. Puis, je vais mentionner quelques exemples là-dessus. Mais aussi, parallèlement à ça, l'autre aspect, c'est justement, quand on regarde la triple courbe, oui, les deux courbes qui montrent d'hyperinflation puis de déflation au niveau monétaire et financier, mais aussi la courbe physique qui, elle, descend toujours, toujours, toujours. Puis, ça nous amène, en fait, à l'autre aspect qui est justement la solution qui est amenée par l'oligarchie financière. En tout cas, une des options qui est l'option folle, qui est de dire on va réduire la population mondiale parce que justement on produit plus. Fait que, vu qu'on n'est plus capable de soutenir la population, ben on est bien mieux de justement stopper les souffrances le plus vite possible. Donc par rapport à la triple courbe, on peut voir ces deux choses-là. Puis, je vais commencer avec du côté économie. Ben justement, quand il y a eu le changement au mois d'octobre, Larouche, en fait, était pas mal au centre de tout ça. Il y a eu la conférence à Rhodes, en Grèce, où justement, ben, il y a eu des discussions avec différents groupes. Notamment, c'était quoi le nom de. Là, j'ai juste Ivanov en tête, mais c'est pas.
Kulpen.
Ah ah. Ouais, c'est ça. C'est le directeur.
Yakunin.
C'est Yakunin, c'est ça. Le directeur. Le PDG des chemins de fer russes qui était là, qui chapeautait la conférence. Et puis Larouche qui était là pour donner un discours sur son plan des quatre puissances. Puis tout juste après ça, il y a eu justement l'accord qui a été signé entre la Russie et la Chine pour du développement au niveau de l'énergie nucléaire, au niveau développement de systèmes ferroviaires en Chine et en Russie. Et puis, c'est ça, depuis ce temps-là, qu'on a vu, c'est que d'un côté, la Chine et la Russie ont lancé un écho, puis là, plus récemment encore, l'Inde, qui vient juste de signer un accord, ils ont signé une déclaration jointe, je ne sais pas si c'est un terme français pour ça, mais l'Inde et la Russie, pour justement du développement aussi nucléaire, pour construire des centrales pour usage civil, et puis pour développer aussi la Sibérie. Ça, j'ai pas encore creusé trop, mais on dit on a des plans pour développer les minerais, en tout cas développer la Sibérie en tant que telle. Donc ça vient juste de signer il y a 2 jours.
Est-ce que Inde va aider dans le développement de Sibérie aussi ou c'est
C'est ça
Ah oui?
l'accord qui a été signé, ouais.
Qu'est-ce que
C'est du
l'Inde? Qu'est-ce que
nucléaire
l'Inde?
civil pour l'Inde, hein?
Sais-tu qu'est-ce que l'Inde va contribuer
Ben, j'ai pas encore creusé beaucoup Je sais qu'on l'a mis, il y avait deux, trois ben sur le Larouche-Pac, il y avait deux, trois articles là-dessus, mais qui brièvement disaient justement en premier, ben bon, y a la rencontre qui a lieu. Bon, ça c'est la première le premier article. Deuxièmement, bon, qu'est-ce qui est en train d'être discuté? Après ça, une déclaration qui a été signée justement sur la question du nucléaire, puis des minerais en Sibérie, ou en fait d'aménager la Sibérie, de la développer. Ça veut sûrement dire des minerais, miner cette région-là, bâtir des villes. Donc, ça c'est interconnecté, puis c'est intéressant de voir comment justement ben, la Chine, la Russie, et l'Inde, c'est trois des quatre puissances dans le plan de Laos. Puis bon, on va parler un peu de ce qui se passe aux États-Unis aussi, mais donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé qui était intéressant parce que justement, face à l'effondrement financier, à l'effondrement de l'économie physique, ces pays-là, puis justement la Chine et la Russie, se sont mis à utiliser un système plutôt de crédit pour dire on va financer, on va matérialiser en fait toutes les dettes qu'on a en ce moment au niveau des bons du trésor américain que la Chine possède, mais qui valent rien si ça reste dans les coffres.
Donc la Chine et la Russie sont anti-mondialistes, comme
Ben, dans un sens, oui, ben, ils ont juste découvert que la mondialisation, ça marche pas. Que c'est un plan pour les détruire, puis ils ont dit non, nous, on veut survivre. On n'est pas prêt, en fait, à creuser notre tombe. Je pense que ça a été ça le réflexe, puis de dire, ben, justement, on a toute une population à soutenir. En Chine, c'est 1,4, 1,6 milliards.
Comment ça fonctionne, leur système de crédit, déjà?
Ben, l'idée, c'est de voir, ben, la Chine avait tous ses bons du trésor américain qui s'étaient empilés. Puis ils soutenaient justement ben, le dollar américain. Mais il y avait différentes pressions qui venaient depuis un an et demi pour dire OK, on doit laisser tomber le dollar américain. C'est sûr qu'au départ, la Chine était totalement contre ça. Mais tu avais des pressions venant de différents cercles, puis notamment les Britanniques, faisait de la pression pour dire bon, on va avoir soit une monnaie internationale, monnaie mondiale ou un genre de panier de monnaie commune. Fait que ça, la Chine s'est rendu compte, en tout cas, je pense qu'avec les différentes discussions qui ont eu lieu, Larouche, les différents sommets, le G20 à Pittsburgh, tous ces genres de rencontres-là où tu vois qu'il n'y a rien qui est en train de se passer. Chose que les Chinois ont dit, ben, c'est temps qu'on sorte notre épingle du jeu parce que sinon, il n'y a rien qui se passe pour nous. Je pense que les données qu'on avait eues, c'était depuis que le marché immobilier avait tombé aux États-Unis, ben, il y avait environ entre 20 et 40 millions de Chinois qui étaient retournés des villes en campagne pour essayer d'avoir de l'emploi. Sauf que 40 millions de Chinois disant que les emplois, ça serait pas. Pendant qu'ils étaient partis en ville, dans les sweatshops et tout ça, ben, il y avait une autre génération qui avait pris la place dans les régions rurales. Donc, le gouvernement chinois était confronté à ça, il fallait faire quelque chose plus vite. Fait, je pense que c'est de ce point de vue-là de voir comment ils ont utilisé les bons du trésor. investisseurs américains pour dire, ben, si on fait rien, si on attend juste qu'ils nous repayent la valeur nominale, on peut attendre encore un bon deux siècles.
Et qu'ils utilisent comme des devises à proprement parler avec leurs échanges commerciaux avec la Russie.
Ouais. Ils utilisent cette valeur-là. Ils disent, OK, ben c'est, on va pouvoir construire avec ça. Fait que ça, c'est un accord qui a été signé entre les deux pays. Puis c'est ça. C'est comme ça que ça marche, un système de crédit.
Merci.
Mais entre-temps. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien. C'est le fun à voir des gens de ces genres de développement-là. Mais ce qu'on a vu, c'est justement toujours dans la dynamique de la triple courbe. Ben, un truc qui s'appelle Dubai World, qui c'est comme dégonflé. Une grosse bulle qui a pété, comme on dit. Puis là maintenant, on est en train de parler de Dubai Holdings, qui est aussi une autre pièce de Dubai qui est sur le bord de la faillite en ce moment. Ça c'est récent. Dans Dubai World, c'est ce dont on a parlé depuis deux semaines. Le Dubai Holdings, ça vient juste d'apparaître comme étant quelque chose d'autre, un autre appendice de Dubai qui en fait est en train de couler aussi. Entre-temps, ben, il y a la Grèce et l'Espagne qui ont vu leur cote par les agences de cotation ont été dévaluées. Fait que là, ça aussi, ça lance en fait des ondes de choc, surtout en Europe, où justement, ben, le système de l'euro, tout ça est en train d'exploser. Et, là, j'ai un blanc, mais c'était le journal, c'était soit le, oui, il y avait deux journaux, soit le New York Times, ben, je veux pas me mélanger, mais un journal qui avait mentionné justement, ben, peut-être dans ces cas-là, si la Grèce est en train de faire tomber tout le système européen, peut-être qu'il y aurait le droit de revenir à une monnaie plutôt nationale, de sortir de l'euro. Mais dans le fond, ils disent ça, mais ce que ça veut vraiment dire, ça veut dire que le système de l'euro ne fonctionne pas. Si on te laisse sortir de ça pour essayer de sauver l'ensemble, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, puis, ben, là, il y a d'autres rumeurs qui sont en train de circuler. Ben, c'est plutôt, on sait que c'est ces pays-là qui seraient les plus à risque. Le Portugal, l'Irlande et l'Ukraine. Donc, quand Larouche a dit justement qu'on est entré dans une nouvelle phase, où là, on voyait que c'était des États qui allaient faire faillite, que c'était l'ère des faillites des États souverains, ben c'est exactement ça. C'est ça qu'on est en train de voir faire surface dans les médias, même si c'est présenté de manière un peu floue. En même temps, bon, aux États-Unis, ce qui se passe, ben, la politique de santé, ça a l'air que la politique d'Obama a été reprise par Arnold Schwarzenegger. C'est pas un très bon signe. Bon, en tout cas, ceux qui pensaient que la réforme d'Obama était bonne, ben, ils peuvent ils peuvent constater que, en tout cas, si ça fait aux deux, les bonnets font à Obama et à Schwarzenegger. Ben, c'est la politique, surtout des mammographies. Où, genre, il y avait un plan en Californie. Ça s'appelait Women Counts, All Women Counts. Sauf que là, si on est en crise économique, donc il y en a au moins quelques dizaines de milliers qui ne pourront pas participer là-dedans. Qui comptent moins, en tout cas. Puis c'est un programme de l'État pour financer, avoir des mammographies gratuites. Et là, ben, ils disent, ben, si on a des restrictions budgétaires, il va falloir qu'on coupe dans quelques... On a déjà coupé dans les pompiers, dans les infirmières, dans les écoles. Il va falloir qu'on coupe dans d'autres choses. Donc, c'est les mammographies qui partent. Donc, ça, c'est la même chose en fait que ce qui est proposé par Obama, mais au niveau national. Là, c'est en train de se faire en Californie. Mais pour amener à l'autre branche, en fait, là, du côté économique, mais du côté de ce qui se passe au niveau du changement climatique avec le sommet de Copenhague, ben, toujours aux États-Unis, il y a eu un rapport de l'EPA, l'Agence pour la protection de l'environnement, qui a déclaré que le CO2, c'était une menace au développement, à l'environnement. Et puis, vraiment catégoriser le CO2 comme étant un produit nocif. Donc, puis, vu qu'ils ont fait ça, en ce moment, ce que Obama voulait faire, c'est que voulait utiliser ce rapport-là pour dire que, ben, vu que l'agence a dans le fond statué que le CO2 c'est nocif, que c'est totalement nuisible à la vie humaine et à l'environnement, qu'il fallait l'éliminer justement, ben. Obama disait, ben ça donnait dans le fond une position pour Obama pour dire, ben on va passer justement des coupures encore plus drastiques pour le cap and trade, pour justement le sommet de Copenhague. Sauf qu'en faisant ça, le président américain n'a pas le droit, c'est encore une chose qui est inconstitutionnelle, c'est, il faut que ça passe au Congrès. Il n'a pas le droit de dire, de faire la politique extérieure des États-Unis, puis d'engager tous les États-Unis à avoir cette politique-là, juste parce qu'une agence a fait une recommandation. Fait que ça, c'est encore, en tout cas, quand on parlait des mesures dictatoriales, ça, c'est ça sorti en fait dans un journal britannique, où le type. Warner, je pense. Mais le type, il disait que ça, c'était une tentative de coup d'État, dans le fond.
Baron.
Pour.
Baron.
Hein?
C'était. Baron.
Ben, c'était un Britannique. Non, je pense que c'était Warner. Mais le truc, c'est qu'il disait que c'est une tentative de coup d'État. Mais c'est made in Britain. Fait que t'as toutes ces recommandations-là, parce que c'est basé sur les données du GIEC, les données de l'IPCC, qui ont été formulées à l'université de East Anglia, dont les courriels se sont retrouvés sur Internet depuis 3 semaines, qui, en fait, ont invalidé toute la question genre du CO2 dans l'hypothèse du réchauffement climatique. Donc, là, ça nous amène justement à cette question-là de qu'est-ce qui est en train de se passer à Copenhague. Parce que, c'est ça, il y avait le rapport de l'ONU qui était sorti, c'était la dernière semaine de novembre, autour du 23 novembre, qui disait, ben, parce que c'est la fin du monde, parce que tout se réchauffe, il va y avoir des raz de marée, New York va être enseveli. C'est la cause du CO2 fait par l'être humain, nos industries, nos autos, tout ça. Donc, il va falloir qu'on réduise le CO2. Puis, ben, ça veut dire moins d'humains, moins de CO2. Alors ça, c'était la conséquence, c'était la conclusion du rapport pour le fonds de la population de l'ONU, qui était sorti dans ce coin le 23 novembre. Mais il disait surtout qu'il va falloir cibler les pays en voie de développement, parce qu'ils font trop d'enfants. Fait que, ça, c'est, je veux dire, ça, c'est pas une politique de génocide, je me demande c'est quoi. Mais entre-temps, après que le rapport soit sorti, là, il y a eu toute l'avalanche du Climate Gate, qui est en fait pas encore très connu au Canada. On dirait que c'est plus discuté en Europe pour l'instant, mais justement, ces courriels-là qui ont été dérobés par un pirate informatique qui serait basé quelque part en Russie ou quelque chose de même. Mais en tout cas, ce qu'on pense, c'est que c'est une personne à l'intérieur, là. C'est une source interne à l'Université East Anglia qui aurait en fond lancé ça parce que, ben justement, des trucs comme le rapport de l'ONU, mais aussi le sommet de Copenhague qui s'en vient, et qui a cette, dans le fond, ce but-là de dire, ben on va réduire le CO2, on va réduire le... on peut pas avoir le CO2, donc ça amène une conclusion que aussi il va falloir restreindre la population. Puis il y a d'autres articles qui sont sortis récemment là-dessus aussi. Mais ça, il faut juxtaposer avec le discours que la reine a fait à Trinidad et Tobago. J'ai eu la chance de regarder ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est un speech assez court où elle passe en fait le plus clair de son temps à parler de comment le Commonwealth britannique est bon pour le monde. Puis justement, elle met l'emphase, elle met l'accent à un certain moment sur le sommet de Copenhague. Je vais juste lire ce paragraphe-là, juste pour vous donner une idée de ce qu'elle dit. Donc, the Commonwealth can be proud of the fact that in each of its six decades, it has shaped the international response to emerging global challenges. And on this, the eve of the UN Copenhagen Summit on Climate Change, the Commonwealth has an opportunity to lead once more. The threat to our environment is not a new concern, but it is now a global challenge which will continue to affect the security and stability of millions for years to come. Many of those affected are among the most vulnerable, and many of the people least well able to withstand the adverse effects of climate change live in the Commonwealth. Et elle continue comme ça. Mais moi, c'est ce bout-là qui m'a fait le plus rire. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en dites, mais... Quand elle dit que genre, les personnes les plus vulnérables en fait au changement climatique se trouvent dans le Commonwealth. J'ai juste pensé un peu à genre des hôtels sur la plage, des tsunamis, des problèmes de manque d'infrastructures, des choses comme ça. Ça, en tout cas. Mais puis elle continue puis elle dit, ben c'est ça, il faut vraiment qu'on soit une force en présence, puis c'est le Commonwealth, on a, même si on représente, on est diversifié en termes de population, de où on est sur la planète, on a quand même, on pense tous de la même manière. Ouais. Fait, on agit dans le même esprit, disons, c'est comme ça qu'elle le dit. Mais ça, genre, ça ramène à voir, ben, les sources de l'environnementalisme, mais là je ne vais pas donner une présentation là-dessus, je pense qu'on en a fait encore déjà beaucoup là-dessus, mais juste de juxtaposer ça avec le sommet de Copenhague, ce qu'elle dit, ce que l'ONU rapporte, qui est la conclusion justement qui sont basées sur ces graphiques faits à l'université de East Anglia, ben on est vraiment en position où justement eux, ils veulent suivre la courbe descendante, la courbe dans la triple courbe. Ils veulent suivre la courbe non productive qui descend et qui fait en sorte que justement, ben, on n'a plus le potentiel de maintenir une population de 6,7 milliards d'êtres humains, mais qu'on est plutôt dans le coin de 2. Donc, ça c'est l'alternative, en fait, d'une branche de l'oligarchie. Mais en même temps qu'il y a le sommet de Copenhague, il y a un anti-sommet qui est en train de se dérouler aussi. Où il y a des gens comme Lord Christopher Monckton, qu'on connaît bien d'une certaine manière, parce que il a été assez clair dans ses positions sur la question du réchauffement climatique, puis il a mené une bataille lui aussi de son côté pour dénoncer, démasquer les fraudes derrière ça. Mais maintenant, ce que La Rouge dit, c'est le Lord Monckton, c'est un gars qui dit c'est vrai ce qu'il dit en ce moment, puis c'est ce qu'on avait publié depuis des années. Mais faut je peux pas nécessairement dire que le gars c'est un super humaniste. C'est quand même un lord écossais, britannique, genre de gars. Mais donc, il a un certain statut, il vient d'un certain système. Mais l'oligarchie, c'est pas nécessairement une chose qui est justement homogène. Il y a différentes factions dans cette oligarchie financière. Puis, bon, lui, il vient de background où, justement, ben, quand Édouard VIII d'Angleterre était beaucoup très aligné sur Hitler, ben, t'as eu toute une faction aussi dans l'establishment britannique qui a dit non, nous, c'est tant qu'à avoir un empire, on veut parler en anglais. Donc, ils ont dit on casse les liens avec Hitler. Puis, Édouard VIII a dû renoncer au trône puis dire ok, je m'en vais en France avec ma fiancée milliardaire américaine. Parce que ça c'était l'histoire pour les journaux, mais derrière ça c'était vraiment que il y avait une cassure en fait dans les gens savaient qu'il allait avoir une guerre et puis il y avait une réorganisation au point de vue de quel côté, qu'est-ce qui allait se passer dans l'oligarchie britannique. Donc, c'est encore en train de se passer. Puis, nous, ben, je veux dire, on va le dire. Lord Monckton, on va s'en servir d'une certaine manière. On va dire, ben, le type, il a totalement raison. Maintenant, il faut aller encore plus loin que qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'il dénonce le fait qu'il n'y a pas de science derrière la théorie du réchauffement climatique. Mais il faut vraiment pointer que, justement, la vraie question, c'est le génocide. Puis, comment on fait pour s'en sortir? Donc, comment on fait pour passer de la triple courbe de l'effondrement du système à la double courbe? Je ne sais pas si vous l'avez vu, la double courbe, mais c'est la courbe où, justement, la production physique, le développement physique, surpasse les produits financiers, mais où les deux sont en croissance, mais il n'y a pas de courbe monétaire. Donc c'est la double courbe.
Dubaï,
c'est ça. C'est donc, parce que, ouais, tu avais une question, juste être sûr que... Ouais.
Est-ce que le coût de production physique, l'autre coup, puis l'autre coup, est-ce que c'est des systèmes financiers ou bien c'est
mais comme les produits financiers, c'est exemple, ça peut être une hypothèque.
Ah, ok.
Une hypothèque, c'est correct, il faut que tu aies une maison.
Ouais, c'est sûr.
Donc, l'idée, c'est d'avoir justement une courbe de production physique qui est en croissance, donc où on est en train d'investir dans l'avenir. Puis dire, ben, on va bâtir les infrastructures, hôpitaux, systèmes de transport, agriculture. Dans le fond, on a vraiment un système agro-industriel. Ça, on développe ça. Puis on s'en va sur Mars. Donc, il faut que ça soit en croissance. Puis en même temps, mettre des produits, je sais pas si on avait appelé ça des produits, mais des agrégats financiers qui augmentent. Qui ont une correspondance physique.
C'est-à-dire que les moyens de paiement,
ouais.
Les moyens de paiement diminuent, ou c'est la courbe là qui tombe, ça veut dire que le moyen...
Non, là on est dans la
deux. Okay. Je vais juste je vais l'exprimer sur le tableau pour être sûr que on se mélange pas. Regardez les couleurs. Tu veux qu'on va passer le truc? Non, sur la. Bon, ça. Ok. Donc, courbe du temps. Dans la première courbe, c'était les agrégats monétaires. Et ça, les agrégats financiers. Et puis la courbe de production physique.
Cool. Ben en fait, la ligne rouge qui était plus basse que la ligne verte. Puis après ça,
seulement depuis. Mais il y a eu un changement en 2000, dans les alentours de 2000, où le monétaire a justement croisé, s'est mis à augmenter plus rapidement que le financier. En tout cas, c'est juste. On peut aller plus en détail, mais dans la nouvelle courbe, ça serait justement. Ça serait seulement une courbe de production physique. Oups, le bleu est rendu à la fin. Puis, suivant ça, la courbe de financière.
Fait que c'est la courbe financière qui est en haut.
Qui suit
une proportion entre les deux.
Ouais.
Okay.
Pour c'est pour ça. Je ne peux pas être l'expert là-dessus là, pour l'instant. Mais c'est clair que pour les. C'est tout un paradoxe, je suis en dire bon, on va enlever la courbe monétaire. Mais les gens ils disent on n'aura plus d'argent. On pourra plus. Tu veux abolir le loony? C'est pas exactement ça. C'est qu'il va toujours avoir du papier monnaie pour faire les transactions. Mais l'idée, c'est que le système va pas être basé sur un système monétaire. Ça va être un système de crédit. Puis un taux de change fixe. Mais.
C'est ça aussi les l'argent toxique.
Ben aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de valeur. C'est que juste en donnant. C'est comme Paul Volcker est allé. Je pense que c'est en Angleterre qu'il était. Puis il a mis au défi les banquiers qu'il rencontrait. Il a dit ben, donnez-moi une chose. Simplement essayez de me donner un exemple bon. De pourquoi on a des produits dérivés aujourd'hui. Qu'est-ce que les produits dérivés ont créé de bon dans le monde depuis qu'on les a inventés? Puis les gars dans ça, ils se disent ben voyons donc. c'est ça qu'on fait à chaque jour, on échange des produits dérivés. Fait qu'il y a vraiment rien de bon à ça, en fait, à toute cette spéculation-là. C'est là où justement ben, le monétaire n'a pas de valeur intrinsèque. Et c'est ça qu'il faut ramener dans la tête des gens. Ben, la plupart le reconnaissent, mais c'est juste qu'on a un système qui est basé là-dessus. Mais en tout cas, ce que Volcker a dit, c'est la meilleure chose qui a peut-être été inventée dans les dernières 25 années, c'est les machines distributrices. Les ATM. C'est la plus grande avancée dans la dans la finance des dernières 25 années. Positive.
Alors, comme M. Lauch dit que la dette est impayable.
Mm-hmm.
Ça veut dire que si cette courbe rouge l'a représenté l'argent aussi, ça veut dire que c'est limité.
Si la courbe rouge représente l'argent.
Si la courbe rouge représentait l'argent, protéger les banques commerciales, mais on va.
Ouais, c'est ça le plan, d'avoir, d'avoir un nouveau, de réintroduire la loi de Glass-Steagall, la loi sur le système bancaire, la sécurité bancaire, pour dire, ben, y a des, justement, les banques ben, sont là pour les dépôts, pour les économies de la population, puis pour faire des prêts. Comme des hypothèques ou partir des petites moyennes entreprises, financer ça, mais le restant, ben, s'il y a de la spéculation après, ça c'est une banque d'investissement, c'est pas dans la banque commerciale que ça se fait. Donc c'est séparé. Il y a vraiment c'est des pare-feux qui font en sorte que ça se mélange pas. Mais ouais, ça c'est l'idée derrière. Tu parles du HBPA, le Homeowners and Bank Protection Act. C'était ça l'idée derrière. Ouais, pour pas mélanger. Mais c'est ça, je veux juste terminer là-dessus que le plan B de l'oligarchie, de dénoncer justement cette faction folle qui veut réduire la population mondiale de la moitié, puis même plus. C'est pas garant d'une solution en tant que telle. C'est pas parce que il y a aussi des gens qui dénoncent la question du réchauffement climatique comme étant une fraude scientifique que nécessairement ils ont une solution. Ils vont dire ok, on va bâtir, on va aller coloniser Mars, on va avoir des grands projets TV comme Franklin Roosevelt. Donc, juste de garder ça en tête, puis je pense que la classe sur l'économie va remettre en perspective justement cette question-là de l'économie physique, qu'est-ce qu'on entend par le développement physique de l'économie. Parce qu'il y a une, faut faire le lien avec la culture aussi dans laquelle on est en ce moment. Pas nécessairement une culture de production. Mais produire des astronautes, ça, c'est pas pire. Donc, je voulais juste faire une petite intro comme ça. Puis, s'il y a des questions, ben, je peux les prendre tout de suite. Donc, s'il y a des questions.
Oui, très bien.
Je sais qu'il y a toujours des questions.
Sais-tu si il y a plus de détails avec le arrangement d'aller en espace avec l'Inde,
mm-hmm.
Chine et la Russie. Non, ça fait longtemps.
Je n'ai pas, ouais, j'ai pas regardé vraiment dans ce coin-là, mais.
Ouais.
Est-ce qu'il est le dernier pays d'aller en espace?
Le dernier?
Ouais.
Ben, il me semble que dernièrement, la Chine, il avait envoyé tu sais, je veux dire,
ouais.
autre que les réguliers, genre.
Les Indiens avaient envoyé des satellites, ben des sondes sur la Lune, je pense. Mais pas de.
Mais l'être humain, je pense que c'est les Chinois.
Ah, ils ont été là, oui. Comme
avec des machines.
Ah, avec des machines.
Il y a ça, il y avait aussi un Canadien qui vient de passer 6 mois dans la station orbitale.
Robert Thurston. Oui, il vient juste
de maganer. Déplacer tout lentement.
Ils sont obligés quand ils sont. Quand ils arrivent, ben ils reviennent.
Ouais.
Maintenant, je pense que en général, les astronautes reviennent au Kazakhstan. C'est comme c'est rendu vraiment la base. En tout cas, de retour, dans le sens. Ils sont vraiment équipés là-bas. Mais, ouais, c'est comme, ben, c'est qui le pionne déjà, la liberté. Lui aussi, il est allé peut-être 2 semaines, mais quand il est revenu, il fallait te baisser pour ça. Faut que tu bouges, cours, puis il y a de la gravité, tu sais.
Ouais,
ça fait bien différent.